Bonjour à chacun. Alors, nous continuons aujourd'hui notre périple à la rencontre des petits prophètes et plus particulièrement notre parcours dans le livre d'Habacuc. La semaine dernière, nous avons parlé un petit peu du contexte de ce livre. Ce texte a été écrit en 605 avant Jésus-Christ, alors que le royaume d'Israël au nord est déjà sous domination babylonienne et que le royaume de Juda, auquel appartient Habacuc, s'apprête à connaître plusieurs vagues de déportation. Et cette première partie du texte d'Habacuc nous avait permis d'évoquer des questions telles que comment réagissons-nous à la violence, à l'injustice, à la méchanceté qui nous entoure? Comment réagissons-nous aux réponses inattendues et surprenantes de Dieu? Comment attendons-nous l'accomplissement des promesses divines? Sur quoi se fonde notre assurance, notre foi? Aujourd'hui, le texte que l'on va lire, sur lequel on va se pencher, donc cette deuxième partie du livre d'Habacuc, va consister d'abord dans une prophétie révélée par Dieu à Habacuc, et ensuite un psaume écrit par Habacuc. Alors, je vous propose de reprendre là où nous étions arrêtés, et je vais relire donc à partir du verset 2 du chapitre 2. Et l'Éternel répondit, « Écris cette révélation et grave-la sur les tablettes. Écris-la clairement pour que chaque lecteur la lise couramment. Car c'est une révélation qui porte sur un temps fixé, qui parle de la fin et n'est pas mensongère. Si même il faut attendre que vienne l'Éternel, attends-le patiemment, car il vient sûrement, il ne tardera pas. Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Ce verset 4 que l'on avait déjà vu la semaine dernière nous enseigne en particulier qu'il y a deux façons de vivre. Vivre avec orgueil en abandonnant Dieu, en vivant comme s'il n'existait pas, ou vivre avec foi en attendant l'accomplissement patiemment, un accomplissement improbable à vue humaine mais pourtant certain des promesses de Dieu. Et la suite du texte que va nous apporter un éclairage particulier sur ces deux façons de vivre. En effet, tout de suite après vient un recueil de malheurs à venir. Malheur pour les Babyloniens tout d'abord. C'est là une réponse que Dieu va apporter au prophète Habacuc. En effet, nous avions vu que un des problèmes d'Habacuc était que le mal restait impuni. Dans sa réponse, on va le lire, Dieu éclaire. Les Babyloniens paieront le prix de leurs actes, de leur méchanceté. Mais ces malheurs ont une portée plus grande et nous pourrons en tirer pour nous également de précieux enseignements. Lisons les versets 5 et 6. En effet, la richesse décevra le guerrier orgueilleux et il ne subsistera pas. Lui qui, tel le séjour des morts, ouvre une large bouche et qui, comme la mort, n'est jamais rassasié, car il ajoute à ses conquêtes nation après nation. Et il rassemble tous les peuples sous sa domination. Mais un jour, tous ces peuples lanceront contre lui des proverbes moqueurs et des paroles ironiques. Mais un jour, la domination des Babyloniens n'est pas sans fin. Ce peuple a beau conquérir tout le Moyen-Orient, sa domination va se terminer. Dieu est clair, il ne subsistera pas. Le mal qu'il a fait se retournera contre lui. La méchanceté sans limite de ce peuple aura un terme. Et toutes les victimes de ce guerrier seront associées à la victoire contre ce peuple qui les a spoliés. Je reprends la lecture. On dira « Malheur à lui, car il amasse des richesses qui ne sont pas à lui. » Jusque à quand cela va-t-il durer? Il accumule un lourd fardeau de dettes. Tes créanciers ne surgiront-ils pas soudain? Ils se réveilleront pour te faire trembler. Et ils feront de toi leur proie. Toi qui as dépouillé des peuples innombrables, tu seras dépouillé par le reste de tous les peuples. Pour avoir répandu le sang humain, pour avoir commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Le premier crime qui est dénoncé là, qui est dénoncé et qui est puni là, c'est le vol. La spoliation des biens, des territoires qu'ils conquièrent. Les Babyloniens soumettaient les peuples conquis à un lourd impôt, un impôt injuste, sans se soucier de la misère qu'il crée. Mais le texte nous dit, « Toi qui as dépouillé, tu seras dépouillé. » Il sera fait aux Babyloniens à la mesure de ce qu'ils ont fait. Au verset 9, je reprends. « Malheur à qui amasse un profit malhonnête pour toute sa famille et cherche ainsi à établir son nid sur les hauteurs pour le mettre à l'abri de tout malheur. Oui, c'est le déshonneur de ton propre royaume que tu as préparé en détruisant de nombreux peuples. Tu t'es fait du tort à toi-même, car du sein des murailles, les pierres vont crier. De la charpente, les poutres leur feront écho. » Alors que la première malédiction concernait l'appétit illimité d'un peuple prêt à tout pour se satisfaire aux dépens de l'humanité, ici, dans cette seconde malédiction, ce qui ressort, c'est le fait d'agir au détriment de toute valeur morale. Le profit est acquis malhonnêtement. Je continue. Troisième malédiction, à partir du verset 12. Malheur à qui bâtit la ville en répandant le sang, à qui fonde la cité sur le crime, quand les peuples travaillent pour ce qui périt par le feu et quand les nations s'éreintent pour rien. Cela ne vient-il pas de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes? Car la terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. C'est désormais la vanité de l'œuvre, de la ville, de l'empire créé par les Babyloniens qui est mise en avant. Dieu n'est pas impressionné par la beauté, par la splendeur de Babylone. Cette ville connaîtra le sort que mérite son mépris des valeurs divines et humaines. Et comme une conclusion de cette malédiction, la vision de la gloire de Dieu emplissant toute la terre est annoncée. Au-delà des oracles de malheur que le prophète transmet, il y a un espoir de salut. Il s'agit d'un encouragement à persévérer jusqu'à ce moment-là. Pour les habitants de Juda, la fin de la domination arrivera moins d'un siècle plus tard. Puis ensuite, c'est la venue de Jésus qui a manifesté cette gloire de Dieu sur terre. Et nous savons que ce règne éternel de Dieu viendra parfaitement avec le retour de Jésus. L'accomplissement de cette prophétie se fait par étapes, mais sa réalisation est certaine. La terre sera remplie de connaissances de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Cependant, nous n'avons pas fini avec les oracles de malheur. Et le contraste avec la suite est saisissant. Je reprends verset 15. Malheur à toi qui force ton prochain à boire et qui vide ton outre jusqu'à l'ivresse pour pouvoir contempler sa nudité. Toi aussi tu seras rassasié d'infamie au lieu de gloire. Toi aussi tu boiras et puis l'on te mettra à nu pour découvrir ton incirconcision. Ton tour viendra de boire la coupe de colère que l'Éternel te tendra de sa droite. Le déshonneur recouvrira ta gloire. Tu seras submergé par la violence que tu as exercée contre la forêt du Liban. Le massacre des animaux retombera sur toi pour t'écraser. Car tu as répandu le sang humain, tu as commis des actes de violence contre le pays de Juda, sa ville et tous ses habitants. Babylone, non content de châtier Israël, comme il avait reçu la mission, fait abonder le mal et la débauche. À nouveau, nous voyons que Dieu ne laisse pas la faute impunie. À la fois les abus et l'ivrognerie de la première partie, mais aussi le mal fait au pays. La forêt, les animaux massacrés, cela retombera aussi sur Babylone. Puis vient la dernière malédiction, à partir du verset 18. À quoi sert une idole sculptée par l'artisan ou une statue de métal fondu qui n'enseigne que le mensonge? Car celui qui l'a faite se confie en son œuvre pour fabriquer une idole muette. Oui, malheur à qui dit à un morceau de bois « Réveille-toi, à la pierre muette, allons, sors du sommeil. » Peuvent-ils enseigner? Voici, ils sont plaqués d'or et d'argent, mais il n'y a en eux aucun souffle de vie. L'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. La cinquième malédiction est liée à la confiance des Babyloniens en leurs idoles. À quoi bon tant de peine pour un résultat décevant? Une idole ne peut ni parler ni agir. L'idole est muette. Elle n'enseigne ni ne conseille. L'idole est inanimée, sans vie, sans possibilité d'action. Et cela tranche avec le dernier verset. Dieu entre en scène, à nouveau. Un moment solennel est proche. Et nous verrons dans la suite dans le chapitre 3, mais que retenir de ce chapitre ? Tout d'abord que le mal retombe toujours sur celui qui le commet. Que le mal ne reste pas impuni. Également qu'il ne faut pas être impressionné par la puissance ou la richesse terrestre. Le visible sur terre ne cache pas aux yeux de Dieu le mal commis. Et enfin, n'oublions pas que le jour vient où la gloire de Dieu remplit la terre et toutes les nations feront silence devant lui. Cela est à la fois un avertissement afin de ne pas commettre un tel mal, mais aussi un réconfort lorsque l'on regarde l'injustice qui nous entoure. À cette prophétie, à cet oracle révélé par Dieu, Habacuc va répondre par un psaume. Habacuc sait désormais que des temps durs s'annoncent pour le peuple de Juda. Il sait aussi que le temps viendra où Dieu établira la justice. Et nous allons le voir en attendant, il continue à placer sa confiance en Dieu. Alors je vais lire le chapitre 3. Prière d'Habacuc le prophète en forme de complainte. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu viens de proclamer, et je suis effrayé devant ton œuvre, ô Éternel. Dans le cours des années, accomplis-la. Dans le cours des années, fais-la connaître. Dans ton indignation, rappelle-toi d'être clément. De Théman, Dieu arrive, le Saint vient des montagnes, du pays de Paran. Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière et de sa main jaillissent deux rayons. C'est là qu'est le réservoir de sa force. La peste meurtrière chemine devant lui et la fièvre brûlante marche à sa suite. S'il vient à s'arrêter, il fait vibrer la terre. Quand il regarde, il fait sursauter les nations. Les montagnes antiques sont disloquées et les collines des anciens temps s'effondrent. Ses voix sont éternelles. J'ai vu les tentes de Kushan réduites à néant, les abris de Madian trembler épouvantés. Est-ce contre les fleuves que l'Éternel s'irrite ? Est-ce contre les fleuves que ton courroux s'enflamme ? Est-ce contre la mer que ta fureur s'exerce pour que tu viennes ainsi monter sur tes chevaux, pour que tu bondisses sur tes chars victorieux ? Ton arc est mis à nu, tes traits sont les serments que tu as prononcés. Tu crevasses la terre, livrant passage aux fleuves. Les montagnes t'ont vu et elles tremblent. Des trombes d'eau s'abattent, l'abîme se met à mugir, lançant bien haut ses vagues. Le soleil et la lune restent dans leur demeure devant l'éclat de tes flèches qui partent et la clarté des éclairs de ta lance. Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. Tu as décapité la maison du méchant et tu l'as démolie de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec tes propres flèches, alors qu'il arrivait comme un vent d'ouragan dans le but de nous disperser. Déjà nos ennemis se réjouissent, comptant bien dévorer l'opprimé en secret. Tu as lancé tes chevaux dans la mer, dans le bouillonnement des eaux puissantes. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là, tremblant. Puisqu'il nous faut attendre sans bouger, le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, il n'y aura plus de raisins dans les vignes, le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leur enclos, les bœufs de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Pour le chef des musiciens, à chanter avec accompagnement d'instruments à cordes. La joie du prophète est claire, et ce, malgré la situation. Il vient d'apprendre que le peuple de Juda allait être déporté. Il sait que les temps à venir s'annoncent très difficiles. Je relis le verset 17, « Car le figuier ne bourgeonnera plus. » Il n'y aura plus de raisins dans les vignes, Le fruit de l'olivier trompera les espoirs, les champs ne produiront plus de pain à manger, les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos, les bœufs de leurs étables. » C'est la désolation. Mais Habacuc se souvient de qui est son Dieu, de ce qu'il a déjà fait, et c'est là qu'il trouve la source de sa joie. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. » Alors regardons un peu plus en détail ce psaume d'Habacuc pour comprendre comment est-ce qu'Habacuc en arrive là. Tout d'abord, on peut noter l'humilité du prophète. Il a entendu dans les chapitres, ce que Dieu lui a dit dans les chapitres précédents et il en est effrayé. Cependant, il en souhaite l'accomplissement. Il ne se croit pas meilleur que Dieu, et si Dieu dit que les événements seront cela, alors le prophète y adhère. Il cherche, entend, puis s'attache à la perspective de l'Éternel. Sommes-nous prêts à dire à Dieu comme Habacuc, « Je suis effrayé devant ce qui m'attend, mais accomplis ton œuvre, Seigneur. » J'y entends là comme un écho à la prière de Jésus, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » La volonté de Dieu ici, c'est de démontrer sa sainteté et sa justice. Il ne tolère pas le mal, mais il ne laisse pas le mal impuni. Cependant, Dieu est également plein d'amour. Et c'est pourquoi Habacuc prie également pour qu'il exerce sa justice avec clémence. La suite du psaume nous amène à écouter Habacuc décrire la venue de Dieu. L'Éternel interviendra. Il vient pour délivrer son peuple. Et Habacuc va reprendre les images de la sortie d'Égypte, du temps de Moïse. Théman et Paran sont des régions à proximité du Sinaï. À cette époque, Dieu avait montré son jugement de manière spectaculaire, en condamnant la puissance de l'époque, l'Égypte, et en sauvant son peuple. Habacuc décrit l'action de Dieu au travers d'images compréhensibles par ses semblables. Ce que Dieu a fait par le passé permet d'imaginer l'action à venir. Et on peut voir que la venue de Dieu annoncée ici sera majestueuse, glorieuse, lumineuse. Au verset 3 et 4, « Sa majesté couvre le ciel et sa louange remplit la terre. Il a l'éclat de la lumière. Toute la terre tremble devant Dieu. » C'est en effet l'heure d'un jugement. Épouvante et mort chemine à ses côtés. Au verset 12, « Avec colère, tu parcours la terre, tu foules les nations aux pieds dans ton indignation. Oui, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. » Ce psaume nous parle de l'anéantissement des Babyloniens à venir, mais il va plus loin. Habacuc ouvre le jugement à la terre entière. Et seul le peuple que Dieu a choisi demeure. C'est au travers de ce peuple que paraîtra le roi qui a reçu l'onction dont il nous est parlé au verset 13. Nous savons désormais qu'il est venu en la personne de Christ. C'est le miracle de l'amour de Dieu. Il juge avec puissance, mais il est en même temps miséricordieux, plein d'amour. Il sauve. Alors, en conclusion de sa méditation, de sa prière, on peut voir Habacuc confiant. Même si il est bouleversé parce qu'il a appris de Dieu, comme on peut le lire au verset 16. Ses lèvres balbutient, ses os se dissolvent, il est tremblant. Mais Habacuc sait qu'il ne changera pas la situation de ses contemporains que l'on a vu la semaine passée. Il sait que le pire est à venir. Mais il sait aussi qu'il ne peut pas lui changer les plans de Dieu, les échéances à venir. Cependant, sa foi triomphe, et c'est là la source de sa joie. Il sait que Dieu interviendra. Il sait que Dieu sauve. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur des chemins élevés. La seule source de sa joie, c'est son Dieu, notre Dieu. Comme Luc nous l'a rappelé au début du culte, ce dimanche nous rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est un jour de joie. Jésus est accueilli par la foule au cri d'Hosanna. Et Hosanna, au-delà d'être un cri de joie, cela signifie « sauve maintenant ». La source de la joie du prophète Habacuc, la source de la joie des habitants de Jérusalem également, réside dans leur attente du salut. Attente concrétisée en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous, par amour. Alors en conclusion, la semaine dernière, lorsque je vous demandais quel verset vous connaissiez du livre d'Habacuc, certains d'entre vous m'avaient répondu, le verset 4 du chapitre 2, « Le juste vivra par la foi ». Pour ma part, le verset que je veux retenir, c'est celui-là, le verset 18 du chapitre 3. « Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. » Le verset commence par « Mais moi ». Nous avons vu les circonstances dans lesquelles Habacuc a écrit ce livre. La désolation du monde qui l'entoure, l'injustice, tous ces pourquoi. Et là-dessus, Dieu qui annonce une déportation. Habacuc vit pleinement la compassion envers ses concitoyens au vu de la souffrance à venir. Cependant, subir à Dieu ce qui le tourmentait, tout en restant dans la soumission et l'écoute de Dieu. Sa foi en est sortie fortifiée. Elle lui permet d'aller au-delà de ses épreuves à venir. Mais moi, je veux me réjouir. Mais moi, j'exulterai de joie. Et quelle est la source de cette joie? L'Éternel, le Seigneur, c'est lui sa force. Paul écrit dans la lettre aux Philippiens, « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. La source de la joie d'Habacuc, c'est son Dieu. C'est son Dieu qui sauve. Alors que la perspective de jugement et la sainteté de Dieu sont des thèmes très présents dans les pensées du prophète, il vit pleinement et avec assurance le salut offert par Dieu. Point de doute sur ce sujet. Dieu sauve. Aujourd'hui encore, le miracle du salut peut et devrait nous réjouir. Dieu, qui en horreur le mal, rend juste ceux qui placent leur confiance en Christ. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Amen.